Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 25e de notre 4e saison, première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Didier Mouly.
Bonjour
Monsieur le maire, puisque vous êtes maire de Narbonne.
Bonjour Jean-Claude.
Et nous évoquerons tout à l'heure avec vous l'actualité de la ville, évidemment, dans une troisième partie. Éventuellement, si à un moment, comme c'est de tradition dans cette émission, vous souhaitez mettre un petit grain de sel au passage, rappelons que c'est aussi la règle.
Merci.
Nous avons un sommaire, Michel, par lequel tu prévois d'abord un petit peu d'explication, ça sera utile, du fonctionnement de certaines institutions françaises, et notamment ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire, en fait, grosso modo, les frais de notariat lorsqu'on achète ou on vend une maison, un bien immobilier. Et un sujet dans lequel tu remarques que lorsque ces droits de mutation se portaient bien, ben la fiscalité locale en subit des conséquences positives. Mais tu nous expliqueras tout ça. Après quoi, on va rentrer dans le politique, politique, on va dire, local, avec tout d'abord les élections à la section socialiste, PS de Narbonne. Après quoi, dans une deuxième partie, nous resterons dans les futures élections municipales avec d'une part candidature de M. Sainte-Cluc et puis candidature ou pas. Enfin, tu donnes ton interprétation de ce que nous a dit M. Perea qui était à ce micro la semaine dernière. Alors d'abord, Michel, les droits de mutation, explique un peu ce que c'est.
Oui, alors plus précisément, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, DMTO. Ce sont des droits qui sont perçus, c'est un impôt qui est perçu par le notaire qui ensuite redistribue cet impôt au département, à la commune principalement, et qui est payé par non pas le contribuable mais l'acheteur d'un bien immobilier ancien. En d'autres termes, Jean-Claude, tu as acheté un appartement dans Narbonne, bon, tu vas chez ton notaire et puis quand tu règles le contrat,
voilà, si je peux
dire définitive,
tu payes
des impôts collectés par le notaire qui ensuite lui les redistribue au département et à la commune. Et principalement au département. La commune, c'est à peu près 1,20% du montant du total de l'impôt perçu. Le reste allant au département. Département d'ailleurs qui tous appliquent le taux maximum. 4,20. Donc ça veut dire que c'est eux qui majoritairement prélèvent le maximum de la ressource fiscale induite par ce type de transaction. Alors il se trouve que en 2017, les départements vont se partager en gros 11 milliards et demi
au plan national,
d'euros, au plan national, ce qui n'est pas rien et qui représente une augmentation de pratiquement 2 milliards d'euros par rapport à l'année précédente, ce qui démontre que l'immobilier, en tout cas les transactions immobilières dans l'ancien, se porte même très bien, et surtout quand on la compare par rapport à l'année 2013, qui a été une année catastrophique de ce point de vue.
C'était l'année d'étiage, là.
Exactement.
C'était l'arrivée sur le plan national de Monsieur Hollande à la présidence de la présidence.
Exactement. Donc il y a eu un effet, de doute chez les acheteurs, même les vendeurs.
Et l'immobilier s'est écroulé.
Voilà. Donc il y a une corrélation évidente donc entre la bonne santé, si je puis dire, du marché de la transaction immobilière et la bonne santé, si je puis dire, des impôts collectés par les collectivités locales.
Voilà. Alors, de là en conclure que c'est la venue de Macron, je laisse chacun libre d'interpréter.
Moi aussi. En tout cas, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette manne, elle bénéficie de manière très inégale aux départements. Les principaux départements qui bénéficient, et ça ne surprendra personne de nos auditeurs, de cette manne, sont les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, qui à eux deux bénéficient d'un milliard pour le premier, et de l'autre de 600 millions d'euros.
Mais c'est au prorata de la population,
Évidemment, plus les départements sont importants en population et donc en population détenant des patrimoines ou voulant acheter un patrimoine immobilier ancien, forcément plus il y a de rentrées fiscales.
Voilà, ça se comprend.
Et on revient derrière, là aussi, ça ne se prendra personne, les Alpes-Maritimes, qui est à la troisième place avec 296 euros par habitant. Ce qui n'est pas rien quand même. Et c'est là où on constate qu'il y a des écarts considérables. Je ne prendrai que le seul exemple de l'Aude. Lui, le département de l'Aude, perçoit 135 euros seulement par habitant. 135 euros par habitant. Hein, 296, ne serait-ce que par rapport aux Alpes-Maritimes. Hein. Alors, ces distorsions sont d'autant plus problématiques hein, que souvent, pour ne pas dire toujours, ce ne sont pas les départements qui bénéficient du maximum de cette rentrée en fait, fiscale, hein, qui détiennent qui ont des problèmes de logement en fait sociaux. Hein. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'un département comme l'autre est tout à fait significatif de ce point de vue. Voilà un département qui a le plus de charges sociales en fait. Hein, à gérer dans son budget et qui, paradoxalement, si je puis dire, contradictoirement en tout cas, bénéficie en fait, des droits de mutation parmi les plus faibles, avec la Lozère.
Illustration là, de la formule à contrario, on ne prête qu'aux riches et voilà. Inversement.
Alors, ce qu'amènent d'ailleurs certains, notamment un sénateur qui est connu pour être le spécialiste de ces questions, en fait, nommé Richard, hein, qui fut un temps bon, un responsable financier important, à vouloir modifier les règles de répartition du fonds de péréquation, parce qu'il existe aujourd'hui un fonds de péréquation qui permet de réguler un petit peu cette contradiction entre ceux qui reçoivent beaucoup et ceux qui reçoivent rien, mais force est de constater que ce fonds de péréquation, il n'est pas aussi performant hein, et aussi redistributif qu'il devrait l'être. Donc ils sont en train de travailler là-dessus, et il est probable que dans les temps qui vont venir, cela va faire l'objet d'une discussion au Parlement entre sénateurs et parlementaires, et probablement faire l'objet de mesures rectificatives qui irait dans le sens d'une meilleure
péréquation. Il s'agirait de renforcer cet effet de péréquation qui, grosso modo, est un système de vase communicant.
Exactement. Un petit peu, hein. Alors, pour terminer, mais sur une note un petit peu anecdotique, on voit bien qu'effectivement, plus le marché de l'immobilier et la transaction immobilière dans l'ancien se porte bien, hein, mieux le département se porte. Il n'y en a qu'un, effectivement, qui, au passage, lui, n'apprécie pas forcément ce genre de bonne santé. C'est effectivement l'acheteur qui, lui, et donc le contribuable, qui, lui, effectivement, voit plein pot, effectivement, payer des droits de mutation
sont en augmentation. Enfin, ça fait partie du système, c'est pas nouveau.
Évidemment.
Voilà. Alors, un petit mot maintenant, on revient sur la politique, on peut dire la politique politicienne sur Narbonne, avec l'élection à la section locale narbonnaise du Parti Socialiste.
Oui, Jean-Claude, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si notre invité Didier Mouly l'a remarqué aussi.
Il nous le dira.
Il fut un temps où, il y avait une élection d'un premier secrétaire ou d'une première secrétaire ou d'un binôme en fait à la section socialiste de Narbonne.
Ça faisait du buzz.
Les journaux le lendemain ou le surlendemain en faisaient en tirer une pleine page.
Et alors là, si je puis dire, que dalle.
Rien, néant. Alors ça m'a inquiété. Je me dis mais comment se fait-il qu'il ne se soit rien passé et quel est le nouveau secrétaire que personne ne connaît en fait aujourd'hui, en tout cas à travers les médias. Eh bien figure-toi que le nouveau secrétaire est l'ancien. Monsieur Lapeyre, qui était candidat à son renouvellement, et qui a été élu, sauf que...
Donc il y a de la stabilité quelque part dans le PS, alors.
Sauf que ça s'est passé dans des conditions un peu particulières, dont évidemment les intéressés, la presse en l'occurrence idem, ne souhaitaient pas forcément faire connaître. Hein. Il y avait plusieurs candidats. Et notamment, il avait en face de lui, M. Lapeyre, un jeune garçon fort ambitieux que nous avons reçu ici à l'époque où il présidait le mouvement des jeunes socialistes du département de l'Aude, qui était, alors j'utilise le terme porte-flingue, alors avec des guillemets, quoi, je ne veux pas être, qui était le porte-flingue, qui était le proche collaborateur de Marie-Hélène Fabre, hein, et donc très proche, en fait, de Marie-Hélène Fabre, et qui a donc été candidat, lui aussi. Hein, ce qui ne m'a pas étonné, parce que j'avais fait un billet, je ne sais pas si
je me souviens,
chroniqué ici, en expliquant que Marie-Hélène Fabre, contrairement à ce que l'on croyait, n'avait pas l'intention de rester inactive par rapport aux prochaines échéances municipales.
Oui, hein. Seulement ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait.
Et que si elle n'était pas... Oui, mais quand même, M. Lapeyre a été élu, mais ric-rac. Hein, il y a eu une grosse mobilisation, enfin, on met des guillemets là aussi, hein, de ce qui reste des militants socialistes actifs sur Narbonne, mais il a été élu à 4, 5, 6 voix. En fait. Ça veut dire que M. Lapeyre a fait le plein, comment dirais-je, de ceux qui ne voient pas du tout en fait, avec Marine Le Fabre se mêler des affaires qui politiques pour le projet municipal, c'est-à-dire l'alliance Nicolas Sainte-Cluc, Madame Bossy, ça fait depuis un petit peu du marais, là, quoi, qui se sont tous réunis pour dire, bon, voilà, on se porte sur M. Lapeyre, parce que, bon, c'est celui qui, pour le moment, nous va le mieux, quoi. Hein.
Oui. Mais pour ça s'est joué à rien. Une expression, c'était le moins pire, si
ça
je puis dire. Voilà,
hein. Ça s'est joué à rien du tout, de sorte que, contrairement à ce que j'entends à droite à gauche, à savoir, grande victoire, pas du tout, en fait. Ça veut dire que, au prochain coup, hein, quand parce que c'est la section socialiste qui va désigner le premier de sa liste pour le prochain municipal. C'est pas Jean Narbonne, c'est bon la section socialiste qui va dire c'est lui. Et après bon.
Oui, et puis on après va... on verra.
Là, donc conclusion, tout ça dénote d'extrême tension extrême en fait au sein de la section du PS. Entre les candidats en fait à la première ligne de cordée en fait pour la prochaine municipale.
Tu reprends une expression macronienne, le premier de cordée.
Et visiblement une volonté d'en découdre quoi entre Nicolas Sainte-Cluque et puis Marine Fabre. On en est là et ça présage effectivement des jours un peu tendus dans les mois qui viennent parce qu'on n'est pas très loin des municipales.
Oui, c'est bientôt, c'est 2020. Ça se rapproche. Et ce qui se rapproche aussi, c'est la pause que nous allons marquer, après laquelle, justement, nous reviendrons sur le sujet. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.